Thé combe, chez nous, à la frontière. C'était par un beau soir de mai 1857. Le soleil, déjà bas sur l'horizon, éclairait de ses rayons obliques le tranquille et verdoyant vallon où se cache le hameau français de Nidufol. Les pruniers dessinaient de longues ombres sur l'herbe des vergers. Au-dessus des vieux toits noircis s'élevaient de blanches colonnes de fumée, annonçant qu'on apprêtait le repas du soir. Quelques pigeons volaient encore aux alentours, mais les ruches étaient silencieuses, car les abeilles, comme des ouvrières fatiguées, se retirent chez elles de meilleure heure que les élégants paresseux qui ont passé la journée à lisser leurs plumes et à roucouler au soleil. Avec l'ombre descend le silence. Seul le ruisseau, là-bas, chuchote encore des histoires au sol penché qu'il écoute, c'est un intarissable bavard qui ne se tait ni jour ni nuit. Son eau claire clapote comme effrayée sous l'arche du pont rustique et se hâte de traverser cette voûte pleine d'ombre pour aller étinceler plus loin dans un brillant rayon. « Quel joli ruisseau! Je m'étonne pourquoi nous n'avons rien de pareil à la Brévine !» Il me semble que je pourrais passer des heures à le regarder courir ainsi et se fâcher contre ces grosses pierres. La jeune fille qui parlait s'était arrêtée sur le pont, suivant du regard un jonc qui filait comme une flèche au milieu du courant. « Mais je m'oublie, mon vieux Chardon, et tu ne me rappelles pas à l'ordre » continua-t-elle en frappant de sa main brune la croupe d'un âne mélancolique attelé à une carriole assez primitive. « Au revoir, Thanase, je soignerai bien le petit chat, n'ayez pas peur. Avant 15 jours, il me suivra partout. » Un miaulement lamentable, sorti du panier à couvercle que la jeune fille portait au bras, fut comme une protestation du prisonnier. « Ne le gâte seulement pas trop, Rosette, dit la vieille femme d'un ton dur. Si les bêtes n'avaient que du bon temps, chacun voudrait naître dans la peau d'un chat. » Rosette devint grave. « C'est un péché de parler ainsi. Demandez à votre curé, Thanase. » Puis elle grimpa lestement sur la carriole et, prenant les rênes, « Hue, Chardon ! » cria-t-elle. « Attends, dit la vieille en allongeant sa main ridée dans la direction du hameau. « Vois-tu ce garçon qui s'avance de notre côté ? Si c'en est un de la Brévine, tu serais peut-être bien aise d'avoir sa compagnie le long du chemin. » « Au contraire, fit vivement Rosette, je le connais bien, mais je ne peux pas le souffrir. Il est méchant comme un singe, Thanase. Allons, Chardon, sais-tu qu'il est bientôt 6 heures, mon vieux ?» Et le rustique équipage s'ébranla, cahotant si fort sur les cailloux que la taille souple de Rosette s'inclinait brusquement en avant et en arrière, comme la tige d'un épi secouée par le vent. La jeune fille gardait son équilibre à grand-peine sur la planche polie qui lui servait de siège, mais elle ne cessait d'exciter de la bride et de la voix le vieux grison, très enclin à reprendre constamment son allure de philosophe. « Quel lambin tu es, Chardon! Je t'ai déjà dit qu'il est 6 heures. Qu'as-tu à regarder ce sorbier à présent? Si tu ne te dépêches pas, ce vilain Gaspard nous rattrapera à la montée et nous en verrons de grise, toi et moi. » « Tu sais bien qu'il me déteste depuis le jour où je lui ai dit tout craque qu'il était méchant comme un âne rouge. C'était pourtant faire injure à tes pareils, n'est-ce pas ? Trotte, mon vieux, trotte !» Mais le grison secoua ses longues oreilles comme pour protester contre des exigences aussi exorbitantes. Le chemin gravissait maintenant un revers escarpé, brisé à mi-hauteur par une profonde fissure qui était la porte du vallon. Pour parvenir à ce col, il fallait ménager sagement ses jambes et son souffle. Aussi l'âne garda-t-il son pas de sénateur. La jeune fille, alors, mit lestement pied à terre. Elle avait repris à son bras le panier couvert, d'où s'échappaient de temps en temps de faibles miaulements. Et, avec deux bêtes à gronder et à consoler, la langue de Rosette avait de la besogne. « Bon !» s'écria-t-elle à un tournant de la route. « Si ce n'est pas Gaspard que j'aperçois là-bas, il aura pris la traverse pour nous rejoindre plus vite. Maintenant, Chardon, s'il te houspille, ce sera bien ta faute, vilain paresseux. Mais peut-être qu'il n'osera rien nous faire. Depuis que je vais sur mes 15 ans, j'ai l'air respectable. Si seulement j'avais des lunettes, Gaspard pourrait me prendre pour ma grand-maman. Tiens, Chardon, est-ce que je ne lui ressemble pas tout à fait ? S'écria-t-elle en se plantant devant son âne, les bras croisés et l'air si sévère, avec ses lèvres serrées jusqu'à en devenir toutes blanches, qu'on aurait eu peine à reconnaître le joli visage souriant de tout à l'heure. Seulement, grand-maman ne serait pas aussi leste, continua-t-elle en courant à reculons, au risque de trébucher sur les pierres. N'as-tu pas honte, Chardon, de voir que j'avance plus vite que toi, moi qui n'ai que deux jambes et toi qui en as quatre ? Ici, Rosette se tut subitement. Elle revint prendre d'un air très grave la bride de son âne et continua son chemin d'un pas mesuré, les yeux fixés à terre, comme si elle ignorait complètement le personnage qui s'avançait rapidement derrière elle. C'était un grand garçon en blouse, assez bien découplé, très brun de visage, mais avec des yeux presque incolores et si profondément enfoncés sur des sourcils épais qu'on y cherchait un instant le regard avant de pouvoir le trouver. Et quand une fois on l'avait rencontré, ce qu'on y avait vu ne vous donnait aucune envie d'y revenir. « Bonsoir, belle Rosette » cria-t-il à deux pas de l'équipage. « Bonsoir, vilain Gaspard » répliqua-t-elle sans se retourner. « Oh oh, nous ne sommes pas douces au pauvre monde. Mais c'est égal, vous ne sauriez croire l'envie que j'ai de faire un petit bout de conversation avec vous. » « Pas moi, » dit-elle avec une moue dédaigneuse. « Eh bien, je parlerai tout seul. Vous voyez si je suis de bonne composition. Vous venez du nid du fol, hein ? Oh, vous n'avez pas besoin de répondre, je vous ai vu de loin avec la tanade et je vous ai entendu aussi. N'ai-je pas de bonnes oreilles ? Elles sont assez longues pour cela. Vous avez la langue la plus pointue de la commune, » dit Gaspard qui riait jaune. « Mais écoutez, ma fillette, nous chanterons une autre chanson aujourd'hui. » Et il s'arrêta devant elle comme pour lui barrer le passage. Thanase m'a répété « Vous disiez que vous l'aviez entendu vous-même avec vos grandes oreilles, » fit-elle d'une voix railleuse. Puis, se baissant vivement, elle passa sous le bras qui l'étendait et se trouva à 5 pas plus loin avant qu'il eût fait un mouvement. Mais il la rejoignit aussitôt et Rosette, malgré sa bravoure, ne put se défendre d'une certaine inquiétude en voyant l'éclair de colère qui brillait dans ses yeux enfoncés. « Je ne lui répondrai plus rien, » pensa-t-elle. « Peut-être qu'alors ça l'ennuiera et qu'il me laissera tranquille. » « Tiens, » recommença Gaspard en jetant un coup d'œil sur la petite carriole. « Il ne m'arrive pas souvent d'aller en voiture. Si j'essayais la vôtre, quand même ça n'est pas une calèche à ressort. » En même temps, il arrachait à Rosette le fouet qu'elle tenait à la main et en cinglait un grand coup sur les flancs rebondis du grison. La pauvre bête tressaillit et prit le trot, mais s'arrêta bientôt, essoufflée. « Je ne veux pas que vous battiez mon âne !» cria Rosette en courant après l'équipage. Pour toute réponse, le grand Gaspard fit de nouveau siffler dans l'air la mèche de son fouet, se hissa d'un saut sur le banc du chat et resta là, les jambes pendantes, regardant Rosette d'un air moqueur. « On est très bien ici, » dit-il en lui faisant une grimace. « Si seulement cette satanée bête voulait trotter, tiens, et puis tiens, marcheras-tu, Rosse ?» Et les coudes pleuvoirent comme grêle. Chardon s'arrêta court, blessé dans sa dignité d'âne par un traitement aussi injurieux. Il se planta solidement sur ses 4 pieds et, par un braiement qui fit tressaillir les échos, donna essor à son indignation. « Vas-tu finir ta musique, vieille brute ?» cria Gaspard en sautant à bas de son siège. Et il s'avança vers la bête récalcitrante en levant le manche du fouet d'un air menaçant. « La brute, c'est vous !» dit Rosette, pâle de courroux. « Vous ne toucherez plus Chardon, ou bien vous me frapperez moi-même !» Elle s'appuyait contre l'animal, les bras étendus en croix pour mieux le protéger. « Ôtez-vous » cria-t-il, « ou vous aurez des coups !»« Essayez si vous l'osez !» Il n'osa pas. « À votre aise, » dit-il en haussant les épaules, « je suis bien bon de vouloir corriger cette bête vicieuse. Faites-la marcher à présent si vous pouvez. »« Rendez-moi mon fouet d'abord, » dit Rosette. Il le lui rendit. « À présent, » dit-elle, « n'essayez pas de m'approcher ou vous pourriez recevoir, au beau milieu du visage, un coup qui vous laisserait des marques. » « Ta 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 !» fit-il, « comme elle est féroce, moi qui la croyais si bonne fille !» Rosette ne répondit pas. Elle prit doucement son pauvre grison par la bride. « Hue, mon vieux !» dit-elle. Et il se remit en marche. « Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? » dit Gaspard, qui suivait la voiture, en rêvant à quelque autre méchanceté. Et, soulevant le linge qui couvrait la petite cargaison, il découvrit quatre beaux pains de serré, blancs comme neige, placés l'un à côté de l'autre au fond du char. « Est-ce qu'on peut y mordre ? J'ai faim, Rosette !» cria Gaspard. La jeune fille ne répondit rien. Elle ne songeait qu'à parvenir le plus vite possible au col où commençait la descente pour faire prendre à Chardon un trot accéléré qui la mit à l'abri de son persécuteur. « Et ce panier si bien ficelé ?» continua le garnement. « Il y a une poule dedans, Rosette ?» Si le chat avait seulement l'esprit de se taire, pensa-t-elle. Mais en cet instant même, le prisonnier jugea à propos de manifester sa présence par un miaulement des plus distincts. « Voilà une marchandise qui n'a pas besoin d'étiquette !» fit Gaspard avec un bruyant éclat de rire. « Vous aimez les chats, Rosette? Moi, j'en raffole. Attention, celui-ci va faire un peu de gymnastique !» Malgré sa ferme résolution de ne plus tourner la tête, Rosette ne put s'empêcher de regarder derrière elle. Gaspard brandissait le panier à bras tendus et le faisait tourner dans l'air comme une fronde, de façon à procurer au pauvre petit miauleur toutes les sensations du mal de mer. Vous allez le faire périr, cria Rosette indignée. Bah, les chats ont la vie dure. À propos, de quelle couleur est celui-ci? Ça doit être une bête remarquable pour qu'on l'emmène exprès du nid du fol. Est-il bleu? Montrez-moi vite ça. Vous n'ouvrirez pas mon panier, dit résolument la fillette. Lâchez cette anse. « Et qu'est-ce que vous me donnerez si je vous laisse tranquille, vous, votre chat, votre âne et toute la ménagerie ?»« Je vous ferai donner une belle étrier par mon père la première fois qu'il vous attrapera. »« Ah, c'est comme ça !» dit Gaspard en se penchant vers elle d'un air de menace. « Nous avons fini de rire, petite fille. Écoutez-moi bien, si vous n'obéissez pas sans regimber à tout ce que je vais vous dire, je flanque vos serrés en bas de la pente, je rosse votre âne et j'étrangle votre chat. Avez-vous compris ? » Les lèvres de Rosette tremblaient. Cette fois, elle avait décidément peur. « J'écoute, » murmura-t-elle. Un sourire de triomphe passa sur la méchante figure du garnement. « Vous allez répéter après moi, mon cher Gaspard, je vous demande pardon d'avoir mal parlé de vous. » « Vous êtes le plus beau des garçons du village et je vous aime de tout mon cœur. Allons, dépêchez-vous. »« Je ne dirai jamais ça !» prononça Rosette d'un ton résolu, bien que la frayeur eût fit pâlir ses joues. « C'est ce que nous allons voir !» s'écria-t-il en lui saisissant brutalement les poignets. Mais elle secoua la tête en serrant les lèvres. « Bien, dit-il froidement, nous allons donc commencer la représentation. » Il prit le petit panier et se mit à dénouer la ficelle qui le liait. Une fois, deux fois, trois fois, vous ne voulez pas? Votre cher petit minou va danser la malaisée, je vous en avertis. Mais comme il défaisait le dernier nœud, un des battants du couvercle se souleva brusquement et une petite bête ébouriffée se précipita dehors, comme ces diablotins qui sortent tout à coup d'une boîte à surprise. D'étonnement, Gaspard lâcha lance sans même essayer de rattraper le fugitif, ce qui, du reste, eût été bien inutile. « Bravo, bravo !» cria Rosette en battant des mains. « Nous n'avons pas fini, » dit Gaspard avec colère. « On verra bien si je ne viendrai pas à bout de vous mater. »« Vous feriez mieux de vous en aller, » dit tranquillement la fillette, « car voici quelqu'un. » Gaspard se détourna subitement. Un homme paraissait en effet au tournant de la route. Il tenait sous son bras le petit chat et cria de loin en apercevant l'équipage arrêté au milieu de la route et le grand garçon debout à côté. « C'est à vous, cette bête ?»« À moi !» dit Rosette en s'avançant. « Tiens, c'est vous, Louis Borel ?» Le nouveau venu ne répondit pas. C'était un jeune homme d'une belle figure, mais dont les traits amaigris décelaient la tristesse et la fatigue. Il paraissait peu disposé à entrer en conversation. après avoir expliqué en quelques mots que le chat était venu se jeter tout effaré entre ses jambes et qu'il n'avait eu qu'à se baisser pour le saisir, il souleva son chapeau et se dirigea vers un sentier qui s'écartait de la route, pénétrant dans le fourré. « Monsieur Borel !» murmura derrière lui une voix suppliante, en même temps qu'une petite main saisissait la sienne. « Quoi, que veux-tu, fillette ? » dit-il surpris. « Gaspard ne fait que tourmenter mes bêtes depuis un grand quart d'heure. Il a battu mon âne et il aurait assommé mon chat si le minou n'avait pas été plus leste que lui. Dites-lui de s'en aller, monsieur Louis. Oh, je m'en irai bien seul, malgré le plaisir de votre compagnie, répliqua Gaspard d'un air moqueur. Adieu, belle Rosette. » Et s'approchant tout à coup de la jeune fille, il lui enleva d'un mouvement imprévu le léger chapeau de paille qui couvrait ses tresses brunes et fit mine de le lancer au bas du talus. D'un bond, Louis Borel fut à côté du garnement. « Lâchez cela, » dit-il en lui serrant le bras d'une façon énergique, et filez lestement. « Si je vous retrouve au haut de la montagne, je vous fais flanquer au violon. » « Elle est bonne, celle-là !» ricana Gaspard en s'éloignant. « Je voudrais savoir lequel de nous deux a le plus de raison de craindre les gendarmes. » Louis Borel haussa les épaules, mais sa figure s'assombrit et il regarda derrière lui comme incertain s'il allait redescendre. « Ce coquin a l'air de me connaître, » murmura-t-il, « quoique je ne me rappelle pas l'avoir jamais vu. Je ferais peut-être mieux de ne pas franchir la frontière. » J'avais pourtant bonne envie d'embrasser la mère ce soir. Qui est ce garçon ? Qui est ce garçon, Rosette ? C'est notre ancien berger. Il a joué de vilains tours chez nous et mon père l'a chassé. Depuis lors, il rôde et toutes les fois qu'il me rencontre, il a un mauvais mot à me dire. Vous n'en êtes pas restés au mot aujourd'hui, il me semble. Il m'aurait battu si vous n'étiez arrivé au bon moment. Il voulait m'obliger à confesser que je l'aimais de tout mon cœur et qu'il était le plus beau garçon du village. Est-ce que je pouvais dire ça ? À vous, par exemple, ajouta-t-elle naïvement. Si on vous le disait, ce ne serait que la vérité. Louis Borel ne put s'empêcher de sourire, mais son air triste revint bientôt. « Pas de bêtises, fillette, dit-il avec un soupir. J'ai l'air d'un fiévreux et d'un poitrinaire, je le sais bien. » « C'est vrai que vous avez changé depuis au moins 6 mois que je ne vous avais vu. Mais si vous êtes malade, pourquoi ne venez-vous pas vous faire soigner à la maison ? Est-ce vrai, poursuivit-elle en baissant la voix, ce que Gaspard dit, que vous avez peur des gendarmes ? Vraiment, Rosette, répondit-il avec impatience, tu es plus ignorante qu'un enfant au berceau. Comme si tout le pays ne savait pas qu'après notre beau coup de septembre dernier, nous avons dû nous enfuir sur France en attendant la signature du traité d'amnistie. Il y en a qui ne s'y trouvent pas tant mal et qui jurent d'y rester toute leur vie plutôt que de servir la République. Mais moi, j'y dépéris de fièvre et d'ennui. Je ne peux pas bien t'exprimer ça, Rosette, mais il me semble que ces bourguignons ne sont pas de notre espèce. Ils sont catholiques, vois-tu, et ça fait toute une différence. Quelques-uns sont plus superstitieux que tu ne voudrais croire. Imagine donc que ma bourgeoise n'a consenti à me recevoir chez elle qu'après s'être bien assurée que je n'avais pas la langue noire. Son curé lui avait affirmé que les protestants sont tous marqués de ce signe. Rosette se mit à rire. J'espère que vous la lui avez tirée bien longue et au curé aussi, dit-elle. Dans quel endroit êtes-vous, Louis Borel ? À Morteau, j'y ai trouvé de l'ouvrage chez un charron. Mais dis-moi, Rosette, est-ce que je n'ai pas déjà pris un peu l'accent comtois ? Mais non, quelle idée ! C'est qu'il y a tantôt 9 mois que je suis chez ces baragouineurs et il me semble par moments que je me mets à parler comme eux. Alors, je me languis après ces mots du pays et la voix de mon père et quand je n'y peux plus tenir, je plante là mon charron et je me mets en route, risquant de me voir pincé par les gendarmes au premier pas que je ferai sur le sol du canton. « Monsieur Louis, » dit Rosette avec quelque hésitation, « est-ce que ça vous ennuierait de me raconter un peu comment les choses se sont passées ? Vous savez, le père est assez à sa façon. Il défend absolument qu'on parle politique chez nous. Il dit qu'il n'est ni rouge ni noir et qu'un bon paysan ne doit connaître que la couleur de sa terre. J'ai seulement attrapé quelques mots par-ci par-là au catéchisme. Vous êtes royaliste, vous, et vous avez voulu renverser le gouvernement. Ce n'est pas beau, monsieur Louis, car il est dit dans la Bible qu'il faut respecter les puissances établies de Dieu. » Rosette croisait les bras comme un juge en secouant la tête d'un air de désapprobation. Louis Borel sourit. C'est que, justement, la République nous semblait avoir renversé le pouvoir établi de Dieu et que nous pensions faire une œuvre pieuse en le relevant. Mais j'ai changé d'avis là-dessus, Rosette, quand j'ai vu ce roi, pour qui nous nous sommes mis dans de fiers embarras, renier toutes ses promesses et abandonner ses fidèles au moment critique. C'est un vieillard et il a la tête malade, paix lui soit. Mais puisqu'il s'est dégagé, je le suis aussi. » En cet instant, le grison, s'impatientant d'une aussi longue halte, prit sur lui de se remettre en route. « Il a raison, dit Rosette, si je n'arrive pas chez nous avant la nuit, le père s'inquiétera. Vous n'allez pourtant pas rester ici, ajouta-t-elle avec surprise, en voyant que son compagnon ne faisait aucun mouvement pour la suivre. « Je crois que je ferais mieux de redescendre, ma rencontre avec ce Gaspard ne me dit rien de bon. » Si on me mettait en prison, vois-tu, Rosette, je ne suis plus le gaillard que j'étais autrefois, et ça m'achèverait. Eh bien, je vais vous dire, si vous avez un calepin sur vous, donnez-moi un mot d'écrit pour votre mère, ce sera toujours autant. Je l'ai vue ce matin dans un closet. Elle était assise avec son tablier plein de laitues à planter, mais elle ne remuait pas, elle regardait tout droit devant elle, vous savez, comme les gens qui ne voient que leur chagrin, et elle avait les yeux rouges que ça me faisait pitié. J'étais avec le père, et il m'a dit, après avoir passé, « Elle languit après son boueb, cette pauvre Louise. » « J'irai, » dit le jeune homme avec une résolution soudaine. « Marchons, Rosette !» Lorsque la petite caravane arriva au défilé où commence la descente, le soleil disparaissait derrière la montagne, et les teintes enflammées du couchant se fondaient peu à peu en un vert transparent encore imprégné de lumière. « Il ne serait pas prudent de me hasarder plus loin avant la nuit, » dit Louis Borel en s'arrêtant devant la borne frontière. « Va sans moi, Rosette !»« Oh » répondit-elle d'un ton suppliant, « vous ne m'avez pas dit un mot de ce que je voudrais savoir. Je parierais que vous avez eu des aventures comme on en lit dans les livres. » « Racontez-moi ça, nous avons encore 20 minutes, au moins, d'entre nuit et jour. Vous vous assiérez là, sur la borne, et s'il vient un gendarme, vous reculerez d'un pas pour lui dire avec un grand salut « Pardon, monsieur, je suis en France. » « La drôle d'affaire que ce serait, la drôle d'affaire !» Et Rosette, avec son amusante vivacité, fit une révérence moqueuse à un gendarme imaginaire. Puis elle s'assit sur le bord du char, les pieds pendants, les bras croisés, d'un air de profonde attention. « Mes aventures, dit le jeune homme avec une certaine amertume, elles ne sont pas des plus glorieuses. Vainqueur d'abord, sans trop comprendre comment, puis fait prisonnier, sans avoir tiré un coup de fusil. Nous étions 150 de la Brévine et des environs, pleins de feu et d'espoir, parce qu'un joli lieutenant de la garde nous avait harangués en allemand. » Les trois quarts d'entre nous n'y avaient vu que du feu. Mais c'est égal, une harangue en allemand, ça sentait la Prusse, ça donnait l'idée que notre coup était approuvé et patronné par le roi. Donc nous nous mettons en route, dans la nuit du 2 au 3 septembre, et vers 2 heures du matin, nous arrivons au Locle. Tout dormait. On entoure les maisons des principaux républicains, on arrête le préfet, le président du tribunal, on installe un comité royaliste à l'hôtel de ville, on s'empare des canons et de la poudrière. Le mal, c'est que nos hommes criaient comme des sauvages « Illuminés, illuminés, à bas les pourris, vive le roi !» Quand on a trop crié, il faut boire, et quand on a bu, on veut de nouveau crier. Il n'y a pas de raison pour que ça finisse. Enfin, on réussit à se rassembler et notre colonne, forte de 300 hommes, marche contre la Chaux-de-Fonds. Le jour était venu et voilà qu'arrivés sur le cré, nos éclaireurs signalent une grosse troupe qui s'avance au champ de la Marseillaise. C'étaient les républicains de la Chaux-de-Fonds 400 environ avec de la cavalerie. Moi et d'autres, nous aurions voulu passer outre. Il y aurait eu une bagarre, mais nous avions aussi des canons, et quand on fait tant que de mettre en train une révolution, ce n'est pas pour se rencontrer avec des coups de chapeau. Cependant, notre commandant fut de notre avis, car il fit faire volte-face. Il n'avait pas l'air gai, ce vieux colonel. On aurait dit qu'il savait d'avance comment les choses tourneraient. Donc, nous dégringolons en bas le craie. Boum, boum, deux coups de canon au-dessus de nos têtes. Voilà nos gens qui s'imaginent être mitraillés par derrière et qui commencent à faire des réflexions. Nous rentrons au Locle. J'en avais honte jusqu'aux oreilles. Mais quoi, je ne pouvais pourtant pas tout seul arrêter la colonne républicaine. On nous fait prendre la route de la Jalouse et plusieurs crânes disaient « Rien n'est perdu, en avant sur Neuchâtel. Quand nous tiendrons le château, ça ira bien. » Tout le jour, nous avons marché en faisant le coup de fusil de temps en temps et à la tombée de la nuit, nous arrivions à Neuchâtel. Depuis plus de 20 heures, je ne m'étais pas assis une minute. Je sentais que, quand je tirerais mes bottes, la peau de mes talons resterait dedans. Le château était déjà occupé par les Noirs. Le comte de Pourtalès, notre commandant, nous fit entrer derrière les barricades et on nous logea pour la nuit. Le soir même, des parlementages avaient commencé entre nos chefs et les commissaires envoyés par la Confédération pour arrêter les hostilités. Il paraît qu'on manigança toute la nuit sans trop s'entendre et, le matin, deux ou trois de nos beaux messieurs en uniforme avaient filé. Le vieux comte Wesdelen et quelques autres, qui n'étaient pas des capons, restaient pour se faire prendre avec nous. À cette heure, on aurait pu faire encore quelque chose. Nous étions 800 bien cantonnés au château, les barricades étaient construites dans toutes les règles, l'artillerie ne manquait pas, ni les munitions non plus, mais la garnison se démoralisait. Au point du jour, quand les républicains commencèrent l'assaut, la moitié des nôtres avait perdu la tête. Les sentinelles s'enfuyaient, les artilleurs abandonnaient leurs pièces, personne ne donnait d'ordre. Les républicains n'eurent pas grand-peine à forcer les barricades. Une minute après, ils remplissaient la cour. Alors je me dis, décharge au moins ton fusil pour faire une belle fin. Et je vise le premier qui s'avance contre moi. C'était un beau garçon d'une 20aine d'années. Jamais il ne verra la mort de plus près, celui-là. J'allais lâcher la détente quand une pensée me vint. Et sa mère? Alors, ma foi, je n'ai plus eu le courage de tirer et je me suis rendu. Il y avait, paraît-il, 480 prisonniers. C'était une cohue incroyable dans cette cour du château. Amis et ennemis se pressaient, s'empoignaient, criaient à qui mieux mieux. On levait les sabres et tous ne sont pas rentrés nets au fourreau. Et que je me dis, si tu pouvais te sauver, ça ne coûte rien d'essayer. Alors j'ôte ma veste bleue qui aurait pu me faire reconnaître et je bénis la prudence de ma mère qui m'avait fait mettre au départ un gilet de tricot brun à longues manches. Un homme en bras de chemise, ça aurait éveillé l'attention. Puis, tout à coup, je me baisse et je fais semblant d'arranger quelque chose à mon soulier. Le caporal qui me gardait me jette un coup d'œil à ce mouvement. Mais bientôt, il regarde ailleurs. Alors, je me glisse contre le mur, les genoux pliés et me faisant aussi mince que possible. Il y avait bien là une masse d'hommes, mais tous étaient tournés vers le centre de la cour. Je me faufile derrière les groupes et bientôt j'arrive à l'escalier que je descends posément sans me presser en donnant des nouvelles à tous ceux qui montaient. J'avais un ami en ville et c'est chez lui que je me rendis tout de suite. Je n'y trouvai que sa femme qui me prêta un habit et me donna à déjeuner. Elle m'indiqua ensuite un sentier écarté par où je pouvais gagner le Val de Ruse. Malgré ma fatigue, je marchais tout le jour et jusqu'à 10 heures du soir où j'arrivais à la maison. Mais ce n'était pas pour m'y arrêter longtemps. Chacun au village savait que j'avais fait partie de l'expédition. Pendant la journée, le secrétaire de préfecture avait passé chez nous sous un prétexte quelconque, mais en réalité pour constater mon absence. Le père me laissa dormir quelques heures pendant que la mère faisait un paquet de mes habits, puis il m'accompagna lui-même jusqu'à la frontière. Cet hiver, il est venu me voir 2 ou 3 fois, mais la mère a eu un mauvais catarrhe et le voyage était trop long pour elle. A-t-elle l'air bien malade, Rosette ?
Moins que vous, certainement. Est-ce qu'on va vous laisser dépérir là jusqu'à ce que mort s'en suive ?
Ça se pourrait, dit le jeune homme avec lassitude. Les négociations traînent beaucoup. Ces diplomates sont terriblement fins. Ils disent blanc, ils écrivent noir, bien heureux encore quand ils ne télégraphient pas d'une autre couleur. Pour le moment, la Confédération refuse l'amnistie et on prétend que la France va s'en mêler. Ça m'est égal, pourvu que je ne m'en aille pas sans avoir revu notre vieille maison.
Rosette, les yeux brillants de larmes, regardait son âne d'un air courroucé, comme s'il eût été l'un des diplomates en question.
« Il ne faut pas ainsi se décourager, » dit-elle enfin. « Si ces messieurs de la Confédération étaient de mauvaise humeur cet hiver, c'est qu'ils étaient peut-être enrhumés. Mais voici le printemps qui leur donnera de meilleures idées. Bonsoir, monsieur Morel, et bonne arrivée chez vous. Savez-vous que je suis très fière d'avoir entendu un sauvage me raconter lui-même ses aventures ?»«
Un sauvage ?» répéta le jeune homme avec quelque étonnement.
« C'est votre oncle Jonas qui vous appelle ainsi parce que vous vous êtes sauvé, » dit Rosette en riant. « Il est plus original que trois vieux fruitiers mis ensemble. Mais je recommence à bavarder et Chardon s'impatiente. Rebonsoir, monsieur Borel. »
« Adieu, Rosette, je ne me mettrai pas en route avant que la nuit soit tout à fait noire. »